Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Comme chaque samedi, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous donner quelques conseils de lecture, vous tenir autant que faire se peut informé de l'actualité éditoriale. En tout cas, aujourd'hui, nous ne manquerons pas de rendre hommage au romancier, essayiste et éditeur Michel Lebris qui nous a quittés il y a une semaine à l'âge de 76 ans. Son nom restera à jamais attaché au populaire festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Nous reviendrons en cours d'émission sur le parcours et l'œuvre de cet homme qui vient donc de nous quitter. Autre hommage aussi dans notre wagon livre aujourd'hui, hommage au romancier Gustave Flaubert, dont on commémore en cette année 2021 le bicentenaire de la naissance. Nous aurons le plaisir d'avoir en ligne Jeanne Bem, universitaire à la retraite, mais qui continue de réfléchir et de s'intéresser à l'œuvre de Flaubert. C'est elle d'ailleurs qui a accompagné l'édition de Madame Bovary à la Pléiade. Elle fait paraître aux éditions universitaires de Dijon un texte intitulé « Flaubert aux prises avec le genre ». De la famille queer à la nouvelle femme. Il s'agit en fait d'un essai limpide, très facile à lire et vraiment abordable, qui nous permet en fait d'appréhender le rapport de Gustave Flaubert avec les femmes dans sa vie, sa mère, sa sœur, sa nièce, mais aussi le rapport qu'a Flaubert avec les héroïnes dont il peuple ses romans, Madame Bovary ou l'éducation sentimentale. Nous en saurons un peu plus avec la spécialiste qui sera dans une dizaine de minutes au téléphone avec nous, Jeanne Bem. Et puis, il me faut tout de même, je crois que c'est impossible de ne pas le mentionner aujourd'hui dans notre émission, il faut saluer l'entrée de l'essayiste et romancière Chantal Thomas à l'Académie française. Elle a été élue le 28 janvier dernier, dès le premier tour de scrutin. Elle succède à Jean d'Ormesson. Elle a 75 ans. C'est la 10e femme à faire son entrée sous la coupole depuis Marguerite Yourcenar, qui, elle, avait été élue en 1980. Chantal Thomas est née en 1945 à Lyon. Elle a passé son enfance et son adolescence dans le bassin d'Arcachon. Elle a eu pour premier grand maître Roland Barthes, dont elle a été l'élève à l'école pratique des hautes études. Et Roland Barthes sera le directeur de sa thèse consacrée au marquis de Sade. Elle rendra d'ailleurs hommage des années plus tard dans un texte pour Roland Barthes à son premier grand maître. Mais c'est en 78 qu'elle fait son entrée en littérature avec un essai, Sade, l'œil de la lettre. Elle se passionne notamment pour le personnage sulfureux Casanova, qui fera l'objet d'un portrait-étude en 1985. Chantal Thomas s'est aussi intéressée au romancier et dramaturge autrichien Thomas Bernhard dans un essai sous-titré « Le briseur de silence ». Elle s'est aussi intéressée à la reine Marie-Antoinette qu'elle réhabilite avec un ouvrage consacré au pamphlet dont fut victime la reine. Ce texte s'intitule « La reine scélérate ». Alors, à la fin, après avoir soutenu sa thèse au milieu des années 70, Chantal Thomas fonce découvrir New York, Greenwich Village, et 40 ans plus tard, elle évoquera dans un ouvrage paru au Seuil et intitulé East Village Blues, elle fera un hommage personnel à ces figures artistiques telles que Andy Warhol, Lou Reed ou encore les poètes survivants de la Beat Generation. Et effectivement, c'est un clin d'œil personnel et autobiographique à ce séjour qu'elle fit à New York au milieu des années 70. En 2002, elle signe un roman intitulé « Les adieux à la reine » qui va lui permettre d'obtenir le prix Femina. Et ce roman, 10 ans plus tard, sera porté à l'écran par Benoît Jacob. Et dans ce roman, Chantal Thomas nous plonge dans le Versailles de Marie-Antoinette en juillet 1789 à travers le regard d'une jeune lectrice, Agathe Sidonie Laborde, qui d'ailleurs est interprétée par Léa Seydoux dans le film. Au début de cette année 2021, Chantal Thomas signe au Mercure de France un récit intitulé « De sable et de neige ». C'est un récit où effectivement elle revient sur des souvenirs personnels et des éléments très autobiographiques. Et puis je voudrais aussi mentionner les chroniques que Chantal Thomas a écrites entre 2014 et 2018 pour le quotidien Sud-Ouest et qui sont réunies au Seuil dans un texte, un livre intitulé « Café vivre » où effectivement elle consacrait des chapitres entiers aux libertés, évoquant Catherine II, Corto Maltese, Voltaire, Patti Smith, sans oublier bien sûr Roland Barthes, si cher à son cœur, Ernest Hemingway ou encore Nicolas Bouvier. Voilà, il s'agissait tout de même de ne pas oublier l'élection de Chantal Thomas, essayiste et romancière à l'Académie française, en remplacement de feu Jean d'Ormesson. Vous êtes bien sûr Radion, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour Wagon Livre. On se quitte pour une pause musicale et juste après, nous serons en ligne avec Jeanne Bem pour son essai « Flaubert aux prises avec le genre, de la famille queer à la nouvelle femme ». Merci d'être avec nous, on se retrouve dans une poignée de minutes.
Et le... cœur est fragile.
Eh bien, comme je l'avais annoncé au début de notre émission, nous sommes en ligne par téléphone avec Jeanne Bem. Bonjour Jeanne Bem.
Bonjour Yannick Petit.
Bonjour Jeanne Bem, merci d'être en ligne avec nous. Je vous ai convié dans notre émission littéraire. Nous nous étions rencontrés, alors plusieurs fois, mais notamment en 2016 à la Fête du Livre à Autun, où déjà je vous avais demandé d'évoquer Flaubert, puisque vous aviez fait paraître un essai aux éditions universitaires de Dijon intitulé « Flaubert, un regard contemporain ». Bien évidemment, c'est pas à vous, Jeanne Bem, que je vais apprendre qu'en cette année 2021, nous allons commémorer le 200e anniversaire de la naissance de Gustave Flaubert, le Absolument. Père de Madame Bovary. Et vous revenez sur le devant d'une actualité intellectuelle et littéraire avec un nouvel essai sur Flaubert intitulé « Flaubert aux prises avec le genre, de la famille queer à la nouvelle femme ». Et c'est également un essai très clair et très facile dans sa lecture, également disponible en librairie aux éditions universitaires de Dijon. Alors Jeanne Bem, dans un premier...
Oui, j'ajouterai pour le prix de 10 euros.
Absolument, ce qui est peu cher pour s'associer au 200e anniversaire de la naissance de Gustave Flaubert. Jeanne Bem, vous êtes aujourd'hui à la retraite, vous vivez dans le Morvan, en Saône-et-Loire. Vous avez été professeur de faculté à la Sorbonne, aux universités d'Orléans et de Mulhouse, et également en Allemagne, à l'université de la Sarre. Je dois tout de même de préciser que vous avez édité, alors c'est en 2013 me semble-t-il, Madame Bovary dans la prestigieuse collection de la Pléiade.
Absolument, tout à fait.
Oui. Alors Flaubert, c'est un...
Particulièrement Madame Bovary, c'est vrai.
Flaubert...
Même si tout à fait au début de ma carrière, je me suis intéressée davantage à l'éducation sentimentale et à la tentation de Saint-Antoine.
Très bien. Merci pour ces précisions, Jeanne Bem. Alors... Flaubert aux prises avec le genre, j'aimerais tout de même que vous nous expliquiez, ce qu'on appelle la théorie du genre ou la théorie queer. Ça ne me semble pas superflu de rappeler de quoi il s'agit.
Oui, voilà. Alors, il faut peut-être remonter un peu plus haut. Comment m'est venue l'idée de cet essai? Le directeur de la collection Essai des éditions universitaires de Dijon m'encourageait à écrire de nouveau quelque chose pour leur collection. Et je lui disais, j'attends d'avoir une idée. Et alors le déclic s'est fait il y a à peu près 3 ans, au moment de l'apparition du mouvement MeToo. Et je me suis dit, mais oui, c'est bien ça, il faut s'interroger sur le rapport de Flaubert aux femmes. Voilà, hein. Surtout que Flaubert souvent passe pour un vilain macho. C'est vrai qu'il a tenu des propos virilistes, masculinistes, assez pénibles quelquefois, mais les choses sont bien sûr beaucoup plus compliquées, beaucoup plus nuancées, et donc je me suis dit, je vais explorer ce thème. Alors, il fallait parler du point de vue de la théorie du genre. À notre époque, c'est impossible de ne pas en parler. Alors, théorie du genre et théorie queer. Queer, Q-U-E-E-R. Un mot qui, en gros, vers la fin du XXe siècle, a signifié homosexuel, en anglais. Hein. Voilà. Alors, pourquoi les deux? C'est parce que c'est très lié, en fait, la théorie queer dérive de la théorie du genre, qui elle-même remonte, en fait, au milieu du XXe siècle, à Simone de Beauvoir, même si elle parlait encore du deuxième sexe et pas du genre. Alors, ça a été ensuite théorisé par des Américaines, essentiellement. Et l'idée, déjà, donc il faut bien la comprendre, c'est que le sexe et le genre sont deux choses différentes. Notre sexe nous est donné à la naissance, quelquefois d'ailleurs de manière incertaine, ce serait une autre question. Mais le genre, c'est quelque chose qui nous est enseigné dans notre environnement social, familial, Cela consiste en somme à accepter tout ce qui se rattache à la manière dont le sexe est considéré traditionnellement. Donc les petites filles portent du rose et les petits garçons du bleu, les petits garçons jouent au Lego et les petites filles jouent à être maman. Voilà, hein, donc ça c'est le genre. Et ensuite on l'accepte ou on ne l'accepte pas, on se débrouille comme on peut avec. En réalité tout le monde se débrouille un peu comme il peut avec, plus ou moins bien. Et Flaubert finalement c'était pareil. Flaubert a remis en question la relation du masculin au féminin. Alors c'est ça que... Alors ensuite il y a le cuir. Le cuir... dérive donc de la théorie du genre. La théorie cuir date à peu près des années 1990 et elle se constitue en marge des études. Vous savez que dans les universités américaines, on utilise beaucoup tous les sujets d'actualité pour créer des départements et des enseignements. Hein. Donc il y avait déjà des chaires dans lesquelles des professeurs enseignaient la théorie lesbienne et gay. Donc le cuir vient remettre en question les enseignements de la théorie lesbienne et gay en disant que c'est trop rigide. Et petit à petit, le cuir va libérer tout ça, si bien que finalement, aujourd'hui, et c'est là où j'en arrive, j'explique ça dans les premières pages, hein, je le fais, vous savez, je ne suis pas une spécialiste, hein, je le fais de manière très grand public, je simplifie forcément un peu, mais je suis quand même allée regarder les textes principaux, et donc j'explique que pour ce qui est des relations sexuelles, d'abord on a mis en question évidemment l'opposition homme-femme, mais ensuite on a mis aussi en question l'opposition homo et hétéro. Et finalement, maintenant, ça ne concerne pas que la sexualité, ça concerne toutes les conduites un peu bizarres, un peu décalées dans la vie. Et nous pouvons tous adopter à un moment ou à un autre une conduite de ce genre. Et Flaubert l'a fait très souvent, à la fois comme homme et comme écrivain.
Alors Jeanne Behm, bien sûr, une certaine audace de votre part de plaquer cette théorie sur l'œuvre d'un romancier du 19e siècle. Vous l'avez dit, Gustave Flaubert, très, très macho. Trois femmes qui ont joué un rôle important dans son existence, sa mère, sa sœur et sa nièce.
Tout à fait, oui. Oui, oui, je pense qu'il était important d'en parler. J'ai donc choisi une autre chose qui est un peu casse-cou encore aujourd'hui dans le milieu universitaire, c'est que d'habitude, on s'en tient aux œuvres, hein. Il va y avoir un colloque à Rouen, normalement, s'il a vraiment lieu, en 21, sur le rapport entre Flaubert et la sexualité dans ses œuvres. Hein. Et moi, j'ai choisi de parler à la fois de Flaubert homme et des romans de Flaubert. Bon. Alors, je ne sais plus quelle était votre question.
Non, on parlait de l'importance mère, sa sœur et de sa nièce.
Bien sûr, les femmes de sa vie, ben, ça commence avec sa famille, hein. C'est évident. Et ensuite, il y a aussi ses amantes, et puis il y a aussi ses amis de cœur. Et tout ça est très important, ses expériences. Hein. L'une des plus intéressantes étant cette expérience qu'il a faite avec ce qu'on appelait une almée, une femme savante, une danseuse, dans la vieille tradition égyptienne, au cours de son voyage en Orient, mais qui était en fait une prostituée. Et c'est une expérience très intéressante dont il a beaucoup tiré, à la fois pour son vécu, et puis il l'a réutilisé, bien sûr, aussi, par exemple, dans Hérodias, pour la danse de Salomé, ou bien dans Salammbô, pour la femme orientale.
En 1857, Gustave Flaubert fait paraître Madame Bovary, qui lui attira d'ailleurs des soucis judiciaires, comme Les Fleurs du Mal, paru la même année, il faut le dire. Et comment, Jeanne Behm, doit-on comprendre cette célèbre phrase de Flaubert, « Madame Bovary, c'est moi ».
Alors, il faut d'abord dire que c'est quelque chose qui a été rapporté de troisième main. Autrement dit, il n'est pas du tout sûr que Flaubert ait prononcé cette phrase. Hein. Quelqu'un a essayé un jour de synthétiser sa pensée en disant, en somme, c'est comme s'il disait « Madame Bovary, c'est moi ». Vous voyez, mais il n'a pas dit « Madame Bovary, c'est moi ». Bon, ceci dit, depuis déjà mon édition de la Pléiade, et d'ailleurs, je ne suis pas toute seule, hein, il y a d'autres de mes collègues qui disent la même chose. Et aussi dans cet essai, je montre bien que Emma Bovary doit beaucoup, évidemment, à Flaubert. Alors, ça va dans les deux sens, hein. C'est-à-dire Flaubert a réussi à s'imaginer femme en écrivant ce roman, voilà, hein. Et de même, dans l'autre sens, Emma bénéficie de beaucoup d'événements, de micro-événements du vécu de Flaubert, de certains de ses rêves, même de certaines de ses pensées, de certaines de ses expériences même métaphysiques, hein. C'est le rapport au monde, le rapport à l'existence, tout ça vient en fait du vécu profond de Flaubert. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Mais à chaque fois que je parle de Madame Bovary, j'avance un peu dans ma connaissance du roman, parce que, comme tous les grands classiques, il est inépuisable. Et donc, ce que je montre maintenant, c'est surtout que le vrai modèle de la nouvelle femme au XIXe siècle peut être illustré par le destin d'Emma Bovary, que d'habitude on considère comme une perdante, alors qu'en fait ce n'est pas exactement cela. Bien sûr, elle se suicide à la fin, elle a de gros ennuis, elle est malheureuse, mais elle est aussi heureuse quelquefois, elle est surtout très énergique, elle prend vraiment son destin en main.
Et c'est elle aussi qui est l'opportunité pour le romancier de faire le procès du romantisme.
Oui, il fait le procès du romantisme, mais là aussi, il se met en abîme, il se met en miroir lui-même, parce que jeune, il a été très romantique. Voilà. Et peut-être plus que le romantisme, à mon avis, c'est le don quichotisme. Hein. Quelque chose, il a connu Don Quichotte quand il avait peut-être 5 ans, on le lui a lu à voix haute, dans une belle édition illustrée, et il a été marqué à vie par le personnage du Hidalgo, qui préfère ses rêves à la réalité. Donc quand il voit des moulins, il pense que ce sont des chevaliers qu'il faut combattre. Et Emma, effectivement, dans ses toutes premières expériences, a tendance à faire cela, elle cherche l'amour idéal. Elle cherche le prince charmant, mais très très vite, elle abandonne complètement cela, hein. Elle est plus romantique du tout, Emma, hein. Elle cherche à satisfaire son désir. Or, le désir féminin, au XIXe siècle, c'est quelque chose que peu de personnes affirment.
D'où l'audace du roman de Flaubert, mal apprécié par ses contemporains à l'époque.
Ah, absolument, oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire qu'on a surtout mis l'accent sur la manière dont sont présentés les deux adultères qu'elle vit.
Le clerc de notaire.
Oui.
Et puis Rodolphe ensuite. J'ai oublié le prénom du clerc de notaire.
Voilà. Ces deux adultères, celui de la campagne et celui de la ville, hein, on pourrait dire, Rodolphe et Léon. Et l'avocat général, au moment du procès, a beaucoup insisté sur le fait que l'adultère détruit la famille. Et on était dans un régime politique, le Second Empire, qui s'appuyait sur la religion catholique, bien sûr. Hein, c'était l'union du trône et de l'autel, comme d'ailleurs auparavant sous la monarchie. Et donc, c'était absolument sacrilège de s'attaquer à la famille. Bien sûr, Flaubert, par exemple, avait eu l'idée, je crois que l'avocat, je me souviens, l'a fait, de faire intervenir Lamartine qui avait pleuré sur le sort d'Emma Bovary en disant « elle est vraiment punie, c'est un roman très moral parce qu'elle est punie pour ses fautes, pour son adultère ». Vous voyez ? Donc, oui. C'est une argumentation assez curieuse. Hein. Mais l'avocat de Flaubert a surtout soutenu que c'était de toute façon un roman éminemment moral. Et il a aussi dissocié, ça c'est très intéressant, la pensée de l'auteur de la pensée du personnage dans sa plaidoirie.
Jeanne Bème, deux autres petits commentaires s'il vous plaît sur deux femmes que l'on trouve dans un autre roman de Flaubert, c'est l'éducation sentimentale, alors qui est postérieure à Madame Bovary. Hein, l'éducation sentimentale, c'est en 1869, c'est-à-dire 12 ans après Madame Bovary. Il y a Madame Arnoux et puis il y a la rousse, la petite Louise.
La petite Louise, tout à fait, oui. Alors il y a quatre personnages féminins importants dans l'éducation sentimentale qui tous sont aimés par Frédéric, aiment Frédéric. Et Madame Arnoux, c'est le grand amour. Ça, c'est romantique. Hein. Il y a un côté romantique dans l'éducation sentimentale. Il y a presque un côté médiéval. C'est la fine à mort. Frédéric et Madame Arnoux ne peuvent pas s'unir. Surtout parce qu'elle est une épouse bourgeoise et fidèle à son mari et qu'elle n'ose pas franchir le pas. Elle est de ce point de vue-là l'inverse d'Emma. Pour Emma, entrer dans un adultère, c'est la libération. Emma s'écrit après sa baisade, comme dit Flaubert, dans les bois avec Rodolphe. Elle s'écrit en se regardant elle-même dans le miroir, j'ai un amant.
Hein. Oui.
Et Madame Arnoux refuse de franchir le pas. Voilà. Donc ça, c'est Madame Arnoux. Je parle assez peu, finalement, de Madame Arnoux, d'ailleurs. Mais enfin, bien sûr que je parle d'elle. Je parle davantage de la petite Louise. Oui, je parle de la petite Louise déjà parce qu'elle a 12 ans au début du roman et qu'elle entre dans cette catégorie des personnages auxquels je consacre un chapitre. Ce sont les adolescents chez Flaubert. Et l'intérêt de Flaubert pour l'adolescence, en tant que c'est l'âge d'entrer dans la sexualité, et que tous ces personnages, bon, la petite Louise, non, mais les autres personnages dont je parle, sont soumis à un traumatisme. Voilà. Et, mais la petite Louise, oui, bien sûr, elle est une jeune femme sensuelle. Mais alors, la différence entre la manière dont Flaubert traite les femmes dans l'éducation sentimentale et dont il traite la femme dans Madame Bovary, c'est qu'il entre très peu dans la vie intérieure de ces personnages féminins dans l'éducation sentimentale. Hein. Son point de vue est le point de vue du jeune homme, le point de vue de Frédéric. Tout est vu du point de vue de Frédéric. Tandis que dans Madame Bovary, même si ce n'est pas un roman à la première personne, si Emma ne raconte pas sa vie, en réalité, Flaubert nous fait vivre sa vie intérieure.
Merci Jeanne Bem. Je rappelle le titre de votre essai. Il s'agit d'un livre grand public, hein, au style très simple, un ouvrage tout à fait abordable. J'en rappelle le titre, Flaubert aux prises avec le genre, de la famille queer à la nouvelle femme, et il est disponible en librairie aux éditions universitaires de Dijon et également disponible sur tous les sites marchands.
Merci beaucoup Yannick Petit, au revoir.
Merci à vous Jeanne Bem d'avoir été en direct avec nous ce matin à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. On marque une nouvelle petite virgule musicale et on se retrouve juste après, bien évidemment, pour la suite de notre émission.
Par la queue.
Merci en cette fin de matinée d'être avec nous à bord de votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour un wagon livre qui, en tout cas, vous rappelle dès à présent, notez-le bien dans vos tablettes, que le prochain Printemps des Poètes, ce sera la 23e édition, se tiendra du 13 au 29 mars prochain. Et cette année, le thème mis en avant, et ça c'est formidable, c'est le thème du désir. Voilà, 23e Printemps des Poètes. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Printemps des Poètes. Vous aurez une multitude d'informations, tout en sachant d'ailleurs qu'il y aura une anthologie du désir qui va paraître très prochainement aux éditions Bruno Doucet. Et moi, je voudrais mettre un petit coup de projecteur sur un poète mal connu, il s'appelle René Crevel. À travers une biographie romancée de Patrice Trigano intitulée « L'amour égorgé », c'est aux éditions Maurice Nadeau. On connaît très mal René Crevel, peut-être plus pour ses romans, encore que les romans de René Crevel sont des romans dynamités de l'intérieur, des romans qui en fait sont terriblement marqués par la révolte de René Crevel. Alors, René Crevel est né en 1900 à Paris, il est mort en 1935. René Crevel est marqué dès l'âge de 14 ans par un traumatisme. Quelque chose d'extrêmement violent pour lui, c'est qu'il découvre le corps pendu de son père qui s'est donc suicidé, c'est en 1914. Une image traumatisante qui va le poursuivre tout au long de sa vie, et c'est la maladie aussi qui accable René Crevel. Dès l'âge de 20 ans, il a la tuberculose. On va l'éloigner effectivement de Paris un petit peu pour le soigner, lui faire prendre le grand air. C'est vrai qu'il a vécu dans un Paris extrêmement mondain où il faisait la noce et où effectivement il tomberait très facilement dans les excès de drogue, d'alcool. Il avait aussi une sexualité débridée. René Crevel était totalement bisexuel. Et puis, il y a eu des rencontres très importantes dans la vie de René Crevel. Notamment en 1921, il va rencontrer Louis Aragon et le mouvement surréaliste, qui est vraiment tout neuf. Le mouvement surréaliste qui est fondé par Breton, qui va quitter Dada et qui va monter donc son mouvement surréaliste. Et puis en 1924, il y aura le manifeste du surréalisme qui paraît en 1924. Le surréalisme, mouvement de grande contestation, hein, et qui invite à la table de la révolte le rêve, le désir et l'amour. Vous voyez, je vous parlais du thème du prochain Printemps des Poètes, le désir, ce sera l'occasion de relire les poètes surréalistes. En tout cas, René Crevel a fait de très belles rencontres, notamment André Gide, Gide qui a beaucoup aidé René Crevel à s'assumer à l'égard de son homosexualité. Quant à André Breton, il a été un père de substitution pour Crevel. Bien sûr, il le rencontre dans le cadre du mouvement Dada, ce mouvement Dada qui est fondé à Zurich en février 1916 par le Roumain Tristan Tzara. Et il faut noter aussi, en 1919-1920, ce texte très important qui contient toute la spécificité du surréalisme, c'est le fameux Chant magnétique qui, lui, est disponible dans la collection Poésie Gallimard. Alors, Crevel a un parcours de surréaliste, il est très 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 important parce que c'est une voix inimitable de la révolte et il est aussi très au courant des apports de la psychanalyse. Hein. Crevel a beaucoup initié des surréalistes au sommeil hypnotique. Mais Crevel, en étant surréaliste, a écrit un grand nombre de romans. Je vous dis, sa poésie se vendait mal, mais il a écrit un grand nombre de romans. En 1925, un texte autobiographique intitulé « Mon corps et moi » qui bien évidemment revient sur son rapport à la maladie, rapport au corps, rapport à la solitude, rapport aussi à la société. C'est un livre d'introspection. Et puis il y a en 1926 un autre roman, alors qui est très dialogué, qui s'intitule « La mort difficile », qui est un livre dans lequel René Crevel évoque la révolte, sa révolte contre sa mère, contre le milieu bourgeois et contre la société en général. En fait, Crevel a cru à une société sans classe, sans église et sans frontières. Hein. Il a d'ailleurs adhéré à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires qui a été fondée en 1932 par un certain nombre de communistes. Et pour Crevel, effectivement, il a toujours affirmé quand même sa différence à l'égard de la société et même dans le groupe surréaliste. Il était homosexuel, il était auteur de romans alors que Breton bannissait les romans. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que Crevel à une œuvre très psychologique. C'est en cela, peut-être aujourd'hui, que c'est intéressant et qu'il faudrait, je dis bien, relire, redécouvrir les romans de René Crevel. Il y a aussi une partie de son œuvre qui est peu connue. Ce sont ses écrits, notamment sur les peintres et les sculpteurs. Il y a un texte sur Chirico, un texte sur Dali. Et puis Crevel a surtout vraiment eu des problèmes de santé. Il est atteint de tuberculose très jeune, il a passé un grand nombre d'hivers à la montagne, il est opéré en 1933 et à la fin de l'année 1934, il passe l'hiver à Davos et de retour à Paris, ses médecins le considèrent guéri. Et en fait, lorsque Crevel va rentrer chez lui à Paris, il a reçu au courrier les résultats de ses analyses, mais les analyses ne lui donnent que quelques mois à vivre et Crevel choisit de se suicider au gaz et il meurt donc dans sa 35e année en 1935. Alors, si vous avez envie de retrouver tout le parcours de ce poète surréaliste mal connu, méconnu et qu'on redécouvrira peut-être au cours de ce printemps des poètes qui compte mettre l'accent sur le thème du désir, eh bien plongez-vous dans cette biographie romancée sous la plume de Patrice Trigano intitulée « L'amour égorgé » et qui est disponible aux éditions Maurice Nadeau. Alors pourquoi « L'amour égorgé » ? « L'amour égorgé » fait référence à une sculpture de Giacometti, la femme égorgée, et il se passe que Giacometti a été le grand ami de René Crevel. Voilà, L'amour égorgé de Patrice Trigano, une biographie romancée de René Crevel disponible aux éditions Maurice Nadeau. C'est Wagon Livre sur Radio, on marque un nouvel intermède musical et on se retrouve bien sûr juste après. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio.
Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir, que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste, et je peux lire dans tes yeux, tu te souviens pas. On se voit peu, t'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Je dois longtemps, longtemps aimer des amours mortes et enterrées, nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous. Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre et prendre l'autre dans ses bras pour écouter ce qui ne sort pas et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire. Je sais, on dirait pas comme ça, il me faut rire, rire de moi. Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes et au matin de ma vie, m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque, contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin, mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent, même la honte qui monte, même l'absence, que tous dansent. Que tous dansent. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance.
vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez via internet sur le www.yannickpetit.fr. Vous y retrouvez également les références, les titres des ouvrages, les noms des auteurs dont il a été question aujourd'hui dans notre wagon livre. Et puisque dans la première partie de notre émission, nous avons évoqué Gustave Flaubert, je voudrais vous signaler en kiosque et chez les marchands de journaux deux numéros spéciaux. Tout d'abord, un numéro spécial de Lire magazine littéraire consacré à Gustave Flaubert. C'est un numéro anniversaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un dossier sur les trésors cachés de la correspondance de Flaubert, d'une part. D'autre part, sont analysés ces grands romans qui sont passés au crible, le style, les personnages, les critiques. Et dans Lire magazine littéraire également, on y apprend que Barthes, Kafka, Proust, Vargas Llosa étaient tous fans de Flaubert. Donc numéro spécial, Gustave Flaubert, Lire magazine littéraire en kiosque. Et puis Le Figaro hors série, lui aussi publie un numéro spécial pour le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, Flaubert, la fureur d'écrire, actuellement disponible en kiosque. Voilà. Et puis dans quelques jours, alors là, on s'éloigne de Gustave Flaubert, on est plus dans l'histoire et l'histoire de la chute du communisme et de la Russie, puisque va paraître chez Flammarion le roman vrai de Gorbatchev sous la plume de Vladimir Fedorovski. Alors Vladimir Fedorovski a été un acteur de la perestroïka et un témoin privilégié des grands événements qui ont mené à la fin du communisme. Et donc cet écrivain franco-russe sort cet ouvrage qui est une longue enquête nourrie d'archives inédites et bourrée d'anecdotes et de témoignages explosifs, nous dit l'éditeur, des témoignages encore jamais révélés sur les mystères du XXe siècle. En tout cas, c'est un livre intitulé donc « Le roman vrai de Gorbatchev » et qui livre des clés incontournables pour déchiffrer la Russie et le monde d'aujourd'hui, parution en librairie le 10 février prochain aux éditions Flammarion. Je l'avais annoncé en début d'émission, nous avons appris il y a une semaine maintenant la mort de Michel Lebris, romancier, essayiste et éditeur. Il nous a quittés à l'âge de 76 ans. Il était en effet né en 1944 dans un foyer modeste aux confins du Finistère. Il lisait dès l'âge de 10 ans La condition humaine d'André Malraux. La lecture a été une activité extrêmement importante pour Michel Lebris. Ça a été presque un sillon qui l'a conduit en fait à HEC, puis à la rédaction du magazine Jazz Hot et à la tête du journal d'extrême gauche La Cause du Peuple, qui sera interdit. Cela vaudra d'ailleurs à Michel Lebris d'être condamné à 8 mois de prison qu'il a passé à la prison de la Santé en 1971. Néanmoins, la littérature a toujours occupé son esprit et sa vie. Son premier grand livre, il le publie en 1977, et c'est un titre très rimbaldien, puisque le livre a pour titre « L'homme aux semelles de vent », qui revendique une liberté plénière et une soif d'ailleurs. D'ailleurs, Michel Lebris, entre-temps, s'est rapproché de Jean-Paul Sartre, qui le recommande chez Gallimard, et Lebris va y créer une collection intitulée « La France sauvage ». Michel Lebris a d'ailleurs aussi participé à l'aventure du quotidien Libération, mais les admirations romanesques de Michel Lebris vont à un noyau d'aventuriers et d'auteurs que sont Stevenson, London, Conrad et également Graham Greene, qui plantait ses décors de Vienne à la Havane en passant par le Mexique, l'Argentine, la Sierra Leone ou encore Haïti. Michel Lebris a créé plusieurs collections, notamment chez Phébus dans les années 80, chez Payot mais également chez Webke. Et on doit aussi, ça c'est important, il faut le souligner, c'est qu'on doit à Michel Lebris la découverte de plusieurs inédits de Stevenson dont il écrira la biographie de référence. Et Michel Lebris a aussi contribué à remettre en scène un auteur qui était jusque-là oublié, négligé, voire méprisé. C'est le Suisse Nicolas Bouvier, l'auteur de L'usage du monde, que Michel Lebris défendra d'ailleurs bec et ongle. Il y a maintenant plus de 30 ans, En 1990, Michel Lebris crée le festival Étonnant Voyageur qui se tient à Saint-Malo. Et il faut aussi dire que Michel Lebris avait composé un dictionnaire amoureux des explorateurs, qu'on peut donc trouver aux éditions Plon. Mais il a aussi livré plusieurs ouvrages d'inspiration autobiographique, où d'ailleurs il se révélait être un excellent écrivain. On lui doit aussi, alors peu connu, Un hiver en Bretagne, paru en 1996, qui est un hymne à sa terre natale, à ses landes et à ses cavalcades de nuages, et je cite, à cette mer des tempêtes, des naufrages, de l'universelle dévastation. Voilà. Coup de chapeau à Michel Lebris qui nous a quittés. Il est certain que son œuvre restera et que son nom, bien évidemment, restera à jamais attaché au populaire festival Étonnant Voyageur. Voilà. Wagon Livre revient dans une poignée de minutes. On vous offre une petite pause musicale et on se retrouve pour conclure. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Dernière partie de notre émission avec quelques chiffres concernant le secteur de la bande dessinée. Alors la bande dessinée se porte extrêmement bien. Les chiffres que je vais vous communiquer, ce sont bien évidemment les chiffres de l'an passé. En 2020, le chiffre d'affaires est en augmentation de 9%. Et Et alors là, vraiment, moi-même, je suis épaté. 53 millions d'albums se sont vendus l'année dernière. Le 9e art confirme sa constante progression depuis 10 ans. Alors, parmi les meilleures ventes, hein, il y a Lucky Luke, les aventures de Lucky Luke, le volume 9. Et puis, en deuxième place, on trouve aussi la bande dessinée L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Voilà, L'Arabe du futur, volume 5, plus de 300 000 exemplaires vendus. Voilà, petit clin d'œil aussi au Festival d'Angoulême, qui certes a décerné de manière virtuelle des prix, hein, des auteurs et des albums ont été récompensés, mais les organisateurs du Festival d'Angoulême espèrent organiser une manifestation physique entre le printemps et l'été de cette année, si les conditions sanitaires s'assouplissent et le permettent. Coup de projecteur cette fois-ci sur le combat d'un imam de Drancy, il s'appelle Hassen Chalgoumi. Il vient de faire paraître aux éditions du Cherche Midi un ouvrage intitulé « Les combats d'un imam de la République », un ouvrage dans lequel il converse avec l'historien des religions Stéphane Ancel. C'est un imam qui s'est engagé pour un islam des Lumières, et qui d'ailleurs le paye cher, puisqu'il est victime de menaces permanentes, il est obligé de déménager à plusieurs reprises, lui-même dit qu'il a peur pour sa vie, et parfois même il prêche avec un gilet pare-balles. Alors, voici ce qu'il déclare. « Mon moteur premier est l'amour de ma religion, de mon prophète et de son message d'amour et de respect des autres. Comment supporter que des assassins et des criminels tuent en son nom ? Les attentats, la radicalisation montante salisse l'image de la religion musulmane. » Alors il regrette aussi, cet imam de Drancy, les discours victimaires. Je le lis. « La misère sociale doit donner à l'intérieur une force pour travailler, mais pas de la haine. » Et il cite notamment ce jeune d'un quartier sensible de Blanc-Ménil, devenu avocat à Niort, grâce à ses parents, à l'école, à la République et à son travail. Il dit aussi « Tout est possible grâce à l'école, mais pas grâce à la haine ». Voilà. Donc je trouvais aussi qu'il fallait mettre en valeur ce texte courageux de l'imam de Drancy. Donc il s'appelle Hassen Chalgoumi. L'ouvrage a pour titre « Les combats d'un imam de la République » et c'est aux éditions du Cherche Midi. Qui veut la peau de nos généralistes ? Un ouvrage du médecin généraliste Jean-Paul Hamon, qui est également président d'honneur de la Fédération des médecins de France, qui avec le journaliste Daniel Rosenweg ont décidé de pousser un coup de gueule face au mépris ressenti par les médecins généralistes durant la crise de la Covid-19. Alors effectivement, il dit qu'on torpille la médecine libérale et les auteurs montrent en fait combien l'administration fait crouler les médecins sous les contraintes bureaucratiques et la paperasserie. Alors pour eux, tout cela conduit à une réelle dégradation de la qualité des soins et concernant le Ségur de la santé, eh bien, les auteurs considèrent qu'il a distribué des milliards sans discernement et n'a fait que relancer la machine à déficit sans réformer le système. Et se pose aussi le problème, comment faire pour désengorger les hôpitaux ? Parce qu'en fin de compte, il se passe qu'un trop grand nombre de personnes vont directement dans les hôpitaux. Alors que finalement, les auteurs, dont je rappelle les noms, hein, le docteur Jean-Paul Hamon et le journaliste Daniel Rosenweg, eh bien, les auteurs plaident pour un véritable parcours de soins où les patients vont d'abord voir le médecin généraliste, ensuite on voit un spécialiste et en dernier recours, on va à l'hôpital. Et cela permettrait aussi de faire beaucoup d'économies. Et en fin de compte, l'hôpital multiplie les consultations de surveillance des maladies chroniques alors que ce n'est pas sa mission et que le personnel mobilisé serait plus utile dans les services. Voilà, alors un livre d'une grande actualité et on reparlera encore de la médecine à travers la situation sanitaire et la santé de nos hôpitaux. En tout cas, santé financière de nos hôpitaux, j'entends. Qui veut la peau de nos généralistes, docteur Jean-Paul Hamon et Daniel Rosenweg, qui est journaliste, et c'est aux éditions Albin Michel. Mentionnons aussi Emmanuel Le Hardy, sous la plume de Alain Duhamel. Alors Alain Duhamel qui effectivement s'intéresse à la personnalité et à la ligne politique singulière d'Emmanuel Macron. On nous dit aussi que Emmanuel Macron dans ce livre se voit brosser le portrait de l'un des chefs d'État les plus originaux depuis Bonaparte, Emmanuel Le Hardy, aux éditions de l'Observatoire, sous la plume de Alain Duhamel. Et puis alors, une femme qui vient d'écrire un livre, enfin il est sorti l'année dernière, le livre s'intitule « J'ai appris à lire à 50 ans » aux éditions Prisma. C'est le parcours d'une femme qui s'appelle Aline Le Guluche. Elle a 50 ans actuellement, elle travaille dans une structure qui aide les personnes âgées et cette femme a appris à lire à l'âge de 50 ans. C'était la petite dernière d'une famille de 8 enfants, elle est venue au monde dans un foyer de paysans modestes, des Yvelines, et évidemment à la ferme la vie est rude, après l'école on donne un coup de main aux parents pour nourrir les poules, les cochons, traire les vaches. Plutôt que passer du temps sur ses cahiers ou sur ses livres de lecture, sans compter que cette pauvre petite Aline, à l'époque, souffre de dyslexie qui n'est pas soignée. Les instituteurs ne s'occupent pas vraiment d'elle. Ils ne sont d'ailleurs pas toujours très bienveillants, ils sont même un peu violents. Et d'ailleurs, ils considèrent que cette gamine a un petit peu de retard mental. Et finalement, Aline Le Guluche sort de l'école à 16 ans. Direction l'usine, où là, effectivement, elle est rassurée parce qu'on a plus besoin de ses bras que de sa tête, encore que. Elle se marie à 17 ans, elle a deux enfants qu'elle va chérir, Céline et Fabrice. Mais finalement, lorsque arrive l'informatique, où de plus en plus on est amené avec le numérique à faire des tas de choses de manière autonome via un ordinateur, eh bien Aline Le Guluche a été de plus en plus embarrassée parce qu'elle ne savait pas lire et ne savait pas non plus écrire. Et donc à l'âge de 50 ans, après trop de souffrances, trop d'humiliation, trop de honte, trop de temps passé à esquiver et à raser les murs, eh bien courageusement, elle retourne sur les bancs de l'école et elle apprend à lire. Alors aujourd'hui, à 50 ans, elle sait lire et écrire, mais ses acquis restent néanmoins fragiles et ont besoin d'être soigneusement entretenus. Chaque matin, donc, c'est un rituel immuable, Aline Le Guluche s'exerce à lire à voix haute pendant une demi-heure, car elle a peur de perdre le sens de la lecture. Et elle a donc écrit ce livre que je voulais vraiment mettre en valeur et qui a pour titre « J'ai appris à lire à 50 ans aux éditions Prisma », tout en sachant que la marque Lancôme, qui fait des produits de beauté, de cosmétiques et des parfums, s'intéresse beaucoup. C'est une cause que soutient beaucoup Lancôme, c'est-à-dire lutter contre l'illettrisme. Eh bien, figurez-vous que Aline Le Guluche est devenue l'ambassadrice Lancôme du programme Write a Future, écrire son avenir. Voilà. Ce wagon-livre est pratiquement terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 13 février, pardon, c'est-à-dire la veille de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Fête des amoureux, amoureux des livres et de la littérature. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez manquez le début de l'émission, bien évidemment, vous la retrouvez sur le site d'archives et vous retrouvez également les références et les titres des ouvrages dont il a été question aujourd'hui. Je souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine tout en vous remerciant d'avoir été avec nous. Au revoir et à samedi prochain, toujours sur Radion.